Je ne commence à croire à un discours, à un article, à un texte que si je sens que son auteur parle à partir de soi, à partir de ce qu'il sait de sa réalité, de sa vérité. Tous les autres discours m'indiffèrent, sinon m'exaspèrent. Je n'ai pas de sincérité, je n'en ai qu'une. Quelqu'un qui fait une œuvre parfaite avec des personnages parfaits, normaux, peut s'exprimer parfaitement, dire des choses normales, dans des enceintes normales, moi pas. Comme il y a peu de lumière, j'y vois rien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une volonté extrêmement forte et farouche que ce monde change, que les êtres humains se trouvent bien et surtout prospèrent sur cette terre, mais surtout qu'ils soient grands. Je ne pense pas que le discours politique, intellectuel, religieux d'aujourd'hui incite les êtres humains à se désirer grands, intérieurement ou extérieurement. C'est des entretiens avec Marianne Alphand qui datent, je crois, des années 90. Hein, mais c'est, voilà,
ça résonne.
Et la question, c'est, vous avez été marxiste ? Pensez-vous que le marxisme voulait la grandeur de l'homme ? Réponse, chacun a eu son marxisme, c'est ce qui est mal compris ou ignoré aujourd'hui, et quelquefois par ceux-là même qui ont été marxistes. Chacun a eu son interprétation du marxisme, souvent sans avoir lu grand-chose à Marx, ce qui était mon cas, par exemple. Question, ce marxisme qui était le vôtre, est-ce que vous l'avez rejeté ? Aujourd'hui, par moments, je vis cet engagement marxiste comme une turpitude de ma vie antérieure. Il faut entendre sa voix beaucoup plus douce et belle que celle-ci. Comme une turpitude de ma vie antérieure, quand je relis une fois de plus des témoignages anciens, des travaux nouveaux sur ce que cette philosophie très engagée historiquement produit ou a produit et ou mis en branle, la terreur, l'habitude de penser les hommes en masse de manœuvre, corvéables, torturables et tuables à merci, de penser les groupes humains comme des groupes de phrases, presque comme des éléments de slogans dont on affine la justesse politique du moment, on affine dans le mot d'ordre et on tue dans le réel. Je suis saisi de vertige et de dégoût. La logorée de Staline, la logorée de Trotsky, cette répétitivité, cet alignement d'un lexique si pauvre sur une pensée aussi mécanique, cette prétention de l'élite à gaver cet animal, le peuple. On y est loin de Marx et pourtant, Marx y est. Voilà. Et après, bon, il évoque Luther aussi. Évidemment, moi je me sens de ce côté-là, de toute la mise en doute de l'histoire hein, des avant-gardes, des histoires de 70, mais de ce côté-là, du côté de Lyotard, pas du côté de ce qui va produire les intellectuels de droite d'aujourd'hui. Et cette réflexion intéressante, c'est quant au marxisme, je pense souvent que quoi que l'histoire le démente, il a quand même réussi son coup. Je veux dire par là que dans notre rêve marxiste de l'époque, il y avait le désir d'une société égalitaire, avec tout de même un petit podium pour les travailleurs intellectuels, donc d'une société nivelée, une société moyenne, convenablement cultivée, avec des possibilités d'accès égales pour tout le monde, à la culture, au développement en soi, dans un soi nouveau, de la nouvelle psychologie révolutionnaire. Je pense qu'on est tout à fait aujourd'hui dans cette société que nous avons peut-être désirée, sans trop vouloir tout de même qu'elle se réalise. Et après, voilà, on est aujourd'hui dans une société extrêmement ordonnée, dans une norme dont les limites me paraissent se réduire, avec une liberté évidente, mais à l'intérieur de la norme. On peut varier à plaisir le discours dominant, mais il faut rester dans ses marques. Tous les discours audacieux, libres, je les sens, je les vois interdits aujourd'hui, je n'en prévois rien de bon pour l'avenir, et c'est tout à fait indigne d'un pays, d'un peuple qui a tellement osé, rien ne me blesse plus que la réduction de ce peuple universel en peuple régional, de ce peuple émancipé, adulte, en peuple adolescent. Mais, ajoute-t-il, vivons donc dans une société apaisée, sans père, sans génie, sans visionnaire, avec des imprécateurs aux petits pieds, j'aime bien, avec des imprécateurs aux petits pieds, la convivialité, entre guillemets, c'est tout de même mieux que le sang et les larmes. Le jeune Orson Welles, dans Le Troisième Homme, sur la roue du Prater, je cite de mémoire, pardonnez mon anglais, « Switzerland, 500 years of peace and what ?» De coucou cloc. Le dilemme est toujours actif entre la vie du corps et la vie de l'esprit, la vie humaine, l'irremplaçable et sacrée aussi la pensée. La preuve est faite dans l'histoire, que tout grand événement de pensée se traduit dans le réel par un événement de sang. Que faire? C'est justement ce dilemme-là que le communisme, entre guillemets, selon moi, se proposait d'annuler pour de bon.
Permettez-moi juste une assise, Philippe. Ouais. Au vendredi en question à Mont-Saint-Aignan, les auteurs venaient, vous les invitiez, vous avez alors, une conversation, une discussion.
Parfait, oui, oui.
Vous,
oui,
bien,
oui.
Vous lisiez des textes.
Non, non, du tout, du tout, du tout.
Comme je ne connais pas du tout le fonctionnement, alors, peut-être que d'autres si, dans cette salle.
Voilà, si j'évoque Pugliotta, c'est parce qu'il y a une soirée un peu mémorable avec lui.
Avec lui.
Avec lui, qui est venu lire, c'était au moment du livre, le livre.
D'accord.
Ce livre qui est écrit dans une langue qui va à la rencontre des origines, des zones antérieures de la